ampoule basse consommation, lumière toxique. Par Annie Lobé, journaliste scientifique, mis à jour le 10 septembre 2009. Plusieurs dizaines d'internautes m'ont envoyé des questions et ou des commentaires après avoir visionné la vidéo sur les ampoules basse consommation, qui a suscité tellement d'intérêt qu'elle a été buzzée sur Internet.
Réponses et révélations issues de la poursuite des investigations. Elles émettent des ultraviolets. Sensibilité à la lumière. Tel est le titre presque poétique d'un rapport publié en anglais en septembre 2008 par le Comité scientifique sur les risques sanitaires émergents auprès de la Commission européenne, CENIR. Ce rapport contient pourtant une véritable bombe. Il révèle que les lampes basse consommation émettent des ultraviolets. Or, chacun sait que les ultraviolets, UV, non seulement accélèrent le vieillissement de la peau, mais également provoquent des cancers cutanés. Saisie en 2004, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail leur a consacré un rapport très explicite « Rayonnement ultraviolet et santé » en ligne sur le site www.santépubliqueédition.fr. L'agence y affirme « Les lampes basse consommation dites à lumière naturelle sont manifestement des émetteurs d'UV artificiels non conformes à la réglementation française. Le risque est que les personnes qui les utilisent soient exposées de manière permanente, notamment en milieu professionnel, puisque les promoteurs les recommandent dans les bureaux, les magasins et même les écoles. » Cette dénonciation officielle s'applique désormais à l'ensemble des lampes basse consommation, puisqu'il est aujourd'hui établi qu'elles émettent des UV. Le Gomorra des ampoules basse consommation. La présence de mercure dans ces produits les a fait classer en avril 2002 parmi les déchets dangereux à collecter séparément. Dans quelles conditions et surtout avec quelle destination? Le 1er juin 2005, le Canard enchaîné révélait le scandale des scandales. Dans les environs de Sarreguemines, en Moselle, la société Argor, censée retraiter ses lampes à vapeur de mercure, en a stocké près de 250 000 avant de faire faillite voilà quelques mois. Selon un témoin, 20% de ces ampoules abandonnées étaient cassées. Bilan, 750 g de mercure répandus sur les sols et dispersés dans l'atmosphère du bâtiment. Pourquoi les fabricants, Philips, General Electric, Claude, Osram, se montre-t-il si discret sur la toxicité potentielle de ce produit? Réponse du syndicat de l'éclairage, parce que personne, et pas même le ministère de l'Industrie, ne les oblige à l'évoquer. Celui-ci a bien fait classer, dans deux décrets de 1997 et 2002, ces lampes parmi les déchets dangereux, mais sans imposer cette mention sur les étiquettes. Résultat, sur 70 millions d'ampoules produites chaque année, seules 15% d'entre elles sont éliminées et recyclées, en général par les industriels au parfum qui les utilisent. Les particuliers, faute d'informations, les jettent tout bonnement à la poubelle après usage. Des centaines de kilos de mercure sont ainsi mélangés aux détritus ménagers. Le zèle écologique doit éviter de ruiner cet agréable commerce. Cet article n'a pas eu le retentissement qu'il méritait. Mais depuis 2 ans, grâce à l'alerte du CRIREM, les médias s'intéressent au sujet. Et depuis quelques mois, la société agréée Récilum s'agite pour organiser la collecte de ces ampoules. Il y a encore un an, il était bien difficile de trouver un endroit où se débarrasser de ces déchets dangereux. Aujourd'hui, magasins de bricolage et supermarchés les acceptent, à côté des piles usagées, à quelques mètres des caissières et des hôtesses d'accueil. Permettez-moi de craindre pour la santé de ces personnels. L'Institut national de santé publique du Québec a publié un guide de gestion du mercure, dans lequel sont décrits en détail les effets de cette substance très toxique pour la santé humaine, dont les vapeurs sont très bien absorbées par voie respiratoire. Une fois dans la circulation sanguine, ils diffusent facilement à travers les membranes et se distribuent à travers tous les organes, s'accumulent au niveau du cerveau, où il affecte les neurones sensitifs et moteurs, traverse facilement la barrière placentaire et présente donc des risques pour le fœtus. L'excellent livre de Françoise Cambérac, Vérité sur les maladies émergentes, explique que le mercure est un élément tellement toxique que l'unité de mesure pour le comptabiliser est le microgramme et non le milligramme. Dans une usine travaillant le mercure, quand la teneur de l'air en mercure dépasse 50 microgrammes par mètre cube d'air, les locaux doivent être évacués. Le taux autorisé de 5 mg par ampoule doit donc être converti en 5000 microgrammes. Le docteur Jean-Jacques Mellet, grand spécialiste de la toxicité du mercure des amalgames dentaires, a mesuré la teneur de l'air en mercure après le bris d'une ampoule basse consommation. Voici la description qu'en fait Françoise Cambérac. Pour en avoir le cœur net, muni de son appareil Jérôme et revêtu de sa combinaison de protection totale, le docteur Mellet a réalisé lui-même l'expérience. Dans un cabanon d'environ 10 mètres carrés, abandonné en pleine campagne, il casse une de ses nouvelles ampoules, chaudement recommandées par les écologistes, et enregistre les vapeurs de mercure. Le résultat ne se fait guère attendre. En quelques secondes, l'instrument de mesure spécialisé affiche des taux proches de 500 microgrammes par mètre cube. Il n'y a aucun doute. Les chiffres sont bien là, renversants. Le fabricant d'ampoules Osram a également réalisé un test de bris d'ampoule, dont il a mis les résultats en ligne. Mais les chiffres diffèrent entre le texte et l'illustration. 25 grammes par mètre cube d'air dans le texte, contre 25 microgrammes par mètre cube d'air sur l'illustration. Simple erreur de frappe. Les effets toxiques du mercure, attestés par plus de 1000 études, sont à la fois bien connus et tristement célèbres depuis les événements de la baie de Minamata au Japon, où une usine d'engrais chimiques a rejeté pendant plusieurs dizaines d'années des déchets imprégnés de mercure. À haute dose, ce sont des convulsions, des tremblements, des fourmillements et une atteinte du système nerveux se traduisant également par des troubles psychiques, confinant parfois à la folie, les mères donnant naissance à des enfants lourdement handicapés. À faible dose apparaissent fatigue chronique, dépression, allergie, maladie auto-immune, spasmophilie, etc. Pendant 2 mois environ, le mercure inhalé reste en circulation dans le sang. Il migre ensuite dans les cellules, où il devient très difficile à déloger. Les lecteurs trouveront dans le livre de Françoise Cambérac des conseils sur les gestes à accomplir immédiatement après avoir cassé une ampoule, ainsi qu'une méthode pour se désintoxiquer dans les 2 mois qui suivent. La fausse bonne idée des compagnies d'électricité. Qui veut faire disparaître les ampoules à incandescence? Et surtout, pourquoi? Pourquoi devrions-nous être contraints, via leur suppression, à utiliser des ampoules basse consommation? Lors de mon voyage de presse en Guadeloupe en 2001, les responsables locaux d'EDF étaient très contents d'expliquer eux-mêmes aux journalistes pourquoi ils avaient lancé une grande campagne pour diffuser ces ampoules basse consommation qu'ils appelaient LBC. Aux Antilles, chaque kilowattheure consommé nécessite le transport par bateau de fioul lourd pour alimenter les centrales, car le recours aux énergies renouvelables solaires et éoliennes est dérisoire, en dépit d'immenses potentialités. Mais EDF a un problème. Elle perd de l'argent, faute de pouvoir facturer sa prestation au prix de revient. C'est pourquoi elle cherche à diminuer la consommation électrique par le biais de ses ampoules qui consommeraient 5 fois moins que les autres. En métropole, le problème d'EDF est de diminuer la charge de distribution aux heures de grande consommation, c'est-à-dire le moment où tout le monde rentre le soir, en hiver, dans un logement équipé de radiateurs électriques, largement imposé par EDF. Il fait froid, car le chauffage est resté quasiment éteint toute la journée afin de réduire la facture. Pour répondre à cet accroissement ponctuel de la demande de dizaines de millions de personnes allumant simultanément radiateurs électriques, télévisions, ordinateurs domestiques et éclairage, EDF remet en service ses centrales au fioul lourd. Pour éviter cela, la compagnie d'électricité a eu la fausse bonne idée de transposer l'expérience lancée aux Antilles. Promouvoir les ampoules basse consommation. Mais l'éclairage en métropole ne représente que 3% de la consommation totale des ménages. Si aux Antilles cela a un sens de chercher à diminuer la consommation électrique liée à l'éclairage, il n'en va pas de même dans toutes les régions du monde où le chauffage constitue le principal poste de consommation d'électricité. Le problème de la surcharge momentanée n'aurait-il pas été bien plus intelligemment réglé en incitant les ménages à installer des chaudières à gaz, dont la chaleur est nettement plus agréable? Autre idée puisée dans les nombreux commentaires que ce sujet a inspiré aux internautes, puisque le chauffage est nettement plus énergivore que l'éclairage et que les ingénieurs d'EDF sont férus d'innovations technologiques, ils auraient pu inventer des radiateurs électriques basse consommation et des chauffe-eau électriques basse consommation. Mais curieusement, cette idée ne leur est pas venue à l'esprit. Aux Antilles, il est pourtant clair que l'expérience pilote des ampoules basse consommation n'a pas été concluante avec les particuliers. Une étude de marché concernant la Martinique rappelle en 2004 que la campagne de 1993 a donné lieu à la distribution de 300 000 lampes éco sous forme de leasing, mais suggère que les premiers acheteurs n'ont pas renouvelé leur achat après la fin de vie des premières lampes. D'après un témoignage, les administrations, qui, comme chacun sait, n'ont pas d'état d'âme, les ont quant à elles bien remplacées à l'identique. Ce rejet de la part des utilisateurs ressort nettement à la lecture, début septembre 2009, des commentaires des internautes. Ils ne sont satisfaits ni de la qualité de la lumière, ni de la durée de vie, inférieure à celle promise, probablement en raison des allumages plus fréquents et surtout plus irréguliers dans la vie courante que lors des essais de laboratoire. Cette constatation n'est sans doute pas étrangère à l'interdiction prochaine des ampoules à incandescence, car c'est sous la pression du lobby de l'industrie électrique, en France FIEC, Sénélec, Syndicat de l'éclairage et Association française de l'éclairage, épaulé par l'ADEME, que l'Union européenne et l'État français veulent aujourd'hui supprimer le plus rapidement possible toute alternative et rendre obligatoire l'usage des ampoules basse consommation en interdisant les ampoules à incandescence. Cette tendance est mondiale. Le Canada, l'Argentine et les États-Unis, pour ne citer qu'eux, ont emboîté le pas. Prétexte invoqué, les ampoules à incandescence sont énergivores, ont un faible rendement. Il est vrai qu'elles transforment principalement en chaleur l'énergie qu'elles consomment et ont un rendement lumineux plus faible que tous les autres types d'ampoules. Un argument que brandissent ingénieurs et écolos appelés à la rescousse par l'industrie pour lui servir de porte-voix afin de faire passer la pilule de leur prix d'achat 5 fois plus élevé. Reste à savoir si le remplacement des ampoules à incandescence par des ampoules basse consommation ne va pas augmenter le besoin de chaleur et donc la consommation des radiateurs électriques. Reste également à établir le bilan carbone, puisque ce mot est à la mode, de ces ampoules basse consommation, incluant le transport depuis leur lieu de fabrication, Europe de l'Est ou Chine, et ce, quel que soit le pays d'utilisation. Le transport lié à la collecte et au recyclage, ainsi que le coût des opérations de recyclage, bien que, comme on l'a vu, les conditions effectives de sa réalisation jusqu'en 2005 permettent de douter de sa faisabilité technique. Après ces révélations, comment croire les écologistes qui tentent encore de nous persuader, pour sauver la planète, d'accepter l'usage obligatoire de ces ampoules au mercure émettant des UV? Alors voilà maintenant pour les notes. L'AFSET, qui est l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, a publié un rapport intitulé « Rayonnement ultraviolet et santé » et la citation qui en est faite est page 3-4, c'était la note numéro 1. Ensuite, le mot « Gomorra » vient du titre du film de Matteo Garrone où sont révélées les pratiques de la mafia pour « retraiter » entre guillemets les déchets. Concernant la classification des ampoules basse consommation en déchets dangereux, elle est parue dans le décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, qui est paru au journal officiel du 20 avril 2002, à la page 7088 dans la rubrique 20.01.21. Et les déchets classés dangereux sont indiqués avec un astérisque. L'alerte du CRIREM a été donnée par un communiqué de presse du 21 août 2007, signé par Arca Ibérica et CRIREM, et qui était intitulé « Alerte, mise en garde sur les ampoules à économie d'énergie ». Concernant la source sur le rapport québécois, le guide sur le mercure, on peut le trouver à l'adresse internet suivante www.inspq.qc.ca/publication/environnement/mercure. Le livre de Françoise Cambérac est publié aux éditions Marco Pieter. Je cite la troisième édition de juin 2008, la page 159, la description du bris d'ampoule par le docteur Jean-Jacques Mellet. Depuis, une quatrième édition a été imprimée. Concernant le fabricant Osram, son site internet est www.osram.fr et la page sur laquelle on peut trouver les résultats de leur test de bris d'ampoule est osram_fr/osram_le_group/development_durable/mercure. Ce site a été consulté le 4 septembre 2009. Concernant les équivalences affichées par les fabricants entre les lampes fluocompactes et les lampes à incandescence, d'après un vendeur, elles sont inexactes. Un vendeur du BHV à Paris affirme, pour avoir l'équivalent d'une 60 watts, il faut prendre une 14 watts et non une 11 watts. La consommation n'est donc pas 5 fois moindre, mais 4 fois moindre seulement. Quelles sont ces équivalences en watts selon les fabricants ? Une incandescence à 60 watts correspond à une fluocompacte de 11 watts. Une incandescence de 75 watts correspond à 14 watts en fluocompacte. Une incandescence de 100 watts correspond à 18 watts en fluocompacte. Une incandescence de 120 watts qui n'existe pas, mais enfin ils ont inventé une 22 watts en fluocompacte. Idem pour les 115 watts en incandescence qui correspondraient selon eux à une 23 watts. Quant aux incandescences 150 watts, elles correspondent à une fluocompacte de 30 watts. Ça, ce sont les équivalences en watts selon les fabricants, mais qui, d'après donc un vendeur, sont inexactes. Donc, je rappelle, la consommation de ces ampoules n'est pas 5 fois moindre, mais 4 fois moindre seulement. Concernant la dépense d'éclairage, qui représente 3% de toutes les dépenses d'électricité, j'ai cité un guide des bons conseils économie, publié par EDF, l'ADEME, le CIPEREC, syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'éclairage et les réseaux de communication. Un petit livret qui, en page 12, montre un tableau de répartition des charges d'électricité pour 1000 francs de dépenses pour un ménage et l'éclairage représente 30 francs. Le rapport sur la Martinique a été rédigé par la société Concept Énergie et Technologie. Il s'agit du rapport final novembre 2004 intitulé « Études de marché des équipements électrodomestiques en Martinique » qui est cité page 32-36. Et concernant enfin les avis des internautes sur les ampoules basse consommation, les sites que j'ai consultés sont les suivants rue89.com, agoravox.com, france2.fr, libération.fr ainsi que différents blogs. Merci pour votre attention.